Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur le droit de manifester. Alors, c'est un sujet important et c'est un sujet du jour, hein, puisqu'en plus de gouverner contre la volonté du peuple, de mépriser le Parlement et de mépriser les syndicats, le gouvernement, Darmanin en tête, le ministre de l'Intérieur Darmanin, dérape à plusieurs reprises sur le droit de manifester. Il abuse des interdictions pour troubles à l'ordre public, même quand il n'y en a pas. Il joue la peur, il réprime pour dissuader précisément de manifester. Cela m'amène à expliquer ce qui entoure ce droit fondamental. Alors, première chose, depuis quand faut-il une procédure particulière pour une manifestation ou un rassemblement? En fait, c'est très récent. C'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a sorti une ordonnance en mars 2012 pour restreindre le droit de manifester, précisément à la suite de manifestations de policiers dont certains étaient en uniforme et certains étaient armés. Vous avez bien entendu, c'est à cause de manifestations de policiers qu'en 2012, il y a eu cette restriction des libertés. Il faut quand même le faire. Alors, il existait un vieux texte de 1935 sur le sujet, mais ce texte était tombé en désuétude. Ça veut dire qu'il n'était plus appliqué de longue date sur les conditions préalables à l'organisation de manifestations. Il faut savoir que dans pas mal de villes de France, cette exigence de procédure préalable n'était pas respectée. Et encore aujourd'hui, à la campagne, lorsqu'il s'agit d'une manifestation de la FNSEA, il n'y a pas de déclaration préalable. Devinez pourquoi. Alors, que dit le texte actuel? Le texte actuel dit que l'organisateur doit rédiger une déclaration minimum 3 jours avant celle-ci, en la remettant à la mairie avec un certain nombre d'informations, comme par exemple le parcours qui est prévu. Alors, le préfet peut parfaitement interdire par voie d'arrêté la manifestation pour peu qu'il trouve un motif. Il peut aussi exiger des mesures particulières. C'est une déclaration à ne pas confondre avec une demande d'autorisation. Donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. L'ordonnance fait toutefois exception, l'ordonnance donc de Sarkozy de 2012, fait toutefois exception de dépôt de demande pour les usages locaux. Alors, quand il y a des manifestations traditionnelles, il n'y a pas besoin de faire une déclaration de manif. Je suis donc au regret de vous dire que les préfets ne le savent pas, que le 1er mai a lieu tous les 1er mai, et cela depuis plus d'un siècle, puisqu'ils exigent aussi des déclarations pour les manifestations du 1er mai. Bon, on n'est pas non plus à ça près dans la période. Il faudrait aussi se poser la question de savoir c'est quoi une manifestation, puisque quelquefois les forces de l'ordre finalement abusent aussi de la définition. C'est donc une bonne question. Certains croient voir des manifestants partout. La distribution de tracts sur la voie publique, par exemple, est du domaine de la loi sur la presse et elle ne peut en elle-même être considérée comme une manifestation. Mais finalement, c'est pas le message que la hiérarchie passe aux gendarmes. Alors, pourquoi avoir particulièrement des déclarations de manifestation? Alors, c'est bien sûr la bonne question. Le prétexte à l'interdiction le plus courant qui est utilisé, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Or, ce motif n'a pas besoin de cette procédure. Avec ou sans déclaration, finalement, le trouble à l'ordre public, sans manifestation, sans déclaration de manifestation. Finalement, c'est quelque chose de constant, donc il n'y a pas besoin de cette procédure, pour finalement que la police ou la justice fasse son travail dans le domaine. Alors le prétexte, c'est aussi de pouvoir gérer la circulation, mon œil, ce que les forces de police ne font de toute façon pas toujours, même quand les manifestations sont déclarées, laissant parfois les manifestations face à des automobilistes, parfois compatissants, mais parfois intolérants. Donc la police connaît toujours les dates des grandes manifestations, même sans déclaration, sinon le renseignement intérieur serait payé à ne rien faire. Et on voit que même sur des manifs déclarés, on a quelquefois des soucis avec la gestion de la circulation. Alors pourquoi déclarer une manifestation alors que tout le monde sait que l'appel à la violence, l'appel à la haine, la destruction de biens sont interdites, et pas particulièrement lors des manifestations. Donc les arguments sur les risques de dérapage ne tiennent pas, puisque de toute façon, s'il y a, par exception et généralement, par des gens qui ne sont pas les manifestants, mais qui sont venus pour mettre le bazar, de toute façon, c'est une obligation pour tous, y compris donc en dehors des manifestations, comme je l'ai dit, d'être pacifiste et de ne rien casser. Alors c'est bien la dissuasion de réaliser des manifs qui recherchaient, comme déjà dit, depuis 2012, et avant il n'y avait pas de déclaration à faire. Alors un petit mot sur notre histoire en France des manifestations, puisqu'il faut quand même s'en rappeler. Le préfet Papon, pendant la guerre d'Algérie en 62, s'est servi de l'interdiction de manifester pour faire assassiner 9 manifestants au métro Charonne. On peut dire que l'interdiction a servi aussi à couvrir des meurtres qui n'ont jamais donné lieu à condamnation ultérieure. Ce même préfet, Papon, avait fait massacrer 200 Algériens qui manifestaient pour la paix en Algérie en 1961, en plein Paris. Plus proche de nous, les nombreuses violences physiques à l'encontre des gilets jaunes et les milliers d'arrestations démesurées montrent une dérive inquiétante des autorités. C'est encore ce qu'on a pu constater lors de la dernière manifestation contre les méga-bassines. Pendant le mouvement des gilets jaunes, on a comptabilisé 2800 blessés, dont 30 éborgnés. Cela a valu que les Nations Unies, le Défenseur des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, officiellement, s'en soient inquiétés. Un seul exemple relativement récent, lors des manifs à Toulouse, des bouteilles d'eau en plastique sont confisquées par les forces de l'ordre au prétexte qu'elles pourraient constituer des armes par destination, et des doses de collyre sont confisquées. Vous savez, le collyre, c'est ce qu'on met dans les yeux, quand on a un problème avec les yeux, bien les doses de collyre sont confisquées. Probablement que ce sont également des armes par destination. Donc la manipulation médiatique n'est pas en reste. Je voulais reciter, si vous l'avez toujours en tête, l'incendie du Fouquet's à Paris. En fait, d'incendie qui n'a pas existé, c'est la devanture qui a brûlé, et c'est le store extérieur qui a brûlé, lequel store roulant a brûlé, allumé par les tirs de grenades lacrymogènes. Donc vous voyez qu'on n'est pas à une manipulation près. Alors je reviens sur ce droit de manifester. Quel risque pour les manifestants? Eh bien il faut distinguer deux choses. Les manifestations interdites d'une part, donc un arrêté préfectoral, des manifestations non déclarées, ce qui n'est pas la même chose en ce qui concerne les conséquences. Une manifestation non déclarée n'est pas, sur cette seule raison, motif à sanctionner les participants. Quel que soit le statut de la manifestation, il est prudent d'avoir une pièce d'identité sur soi, de vérifier que l'on n'a pas concerné de canif de ciseaux dans son sac, puisque tout est prétexte, finalement, à vous accuser d'être armé, et de rester à côté de gens qui vous connaissent. C'est normal, tout ça c'est pour votre bien. Et oui, notre bien, vous ne l'aviez pas deviné. J'en reste là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Kélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon costume, mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.